Top Music.
Top Music entre deux. Le podcast de la SIG Strasbourg.
Entre deux, épisode 3, avec nous un joueur oxymore. Il est à la fois le plus jeune de l'effectif, mais également le plus ancien joueur de l'effectif actuel de la SIG Strasbourg. Nous allons passer quelques minutes en compagnie de Ludovic Beurst. Salut Ludovic.
Salut, salut.
Ludovic Benjamin Beurst.
C'est ça.
C'est ça.
Mon deuxième prénom.
Ton deuxième prénom, né en janvier 99.
C'est ça.
Je n'ai plus la date exacte.
5 janvier 1999. T'as mal fait tes notes.
Hein, mais eh oui. Il me manquait ce 5. Voilà, tout simplement. Ludovic, né à Strasbourg.
Oui.
Tu as vécu dans le coin. Tu as vécu où exactement ?
À Geispolsheim.
À Geispolsheim. Grande cité de basket en Alsace d'ailleurs.
Oui, quand même.
En Geispolsheim.
Ça marche plutôt bien.
Ouais, les filles, notamment de Geispo, sont parmi les meilleures en France.
Hein. NF1, c'est ça.
Exactement. Enfance dans une famille orientée basket, ou c'est
ouais.
Toi ?
Ouais. Il y a mon père qui faisait du basket justement à Geispolsheim. Il y a mon frère qui fait encore un peu de basket. Et il y a ma sœur qui a repris aussi le basket. Il y a juste ma maman qui filmait les matchs, voilà, et qui faisait un peu la supportrice numéro 1.
Et l'intendance, j'imagine, après, avec les maillots sales et les chaussettes à laver, tout ça.
Un peu le sale boulot, mais bon, ça va, elle aimait bien.
Elle aimait bien. Et là, c'est un truc terrible, parce que je m'aperçois que j'ai joué à une époque contre Geispolsheim. Si ça se trouve, j'ai affronté ton père.
Ah, peut-être. Hein,
sauf si je jouais vraiment bien, parce que j'étais dans les petites équipes pour ma part. Ludo, toi, le basket, ben, tu es vraiment tombé dedans tout petit, à ce que j'ai pu apprendre.
Ouais, c'est ça, ben... Comme je l'ai dit auparavant, ma famille faisait du basket, donc j'étais depuis très petit déjà dans les salles de basket. Et du coup, après, j'ai commencé très tôt, à l'âge de 5 ans, à Geispolsheim, justement. Mais bon, je faisais déjà du basket chez moi, dehors. Donc, j'ai été baigné dedans et j'ai commencé très rapidement le basket.
Et tu as commencé très rapidement et très fort, semble-t-il. On a enquêté et semble-t-il, j'ai appris... dans les couloirs, dans les travées du Rhenus Sport, que lorsque tu étais en baby basket, tu as fait un match surclassé contre des poussins. Tu peux me raconter la suite ?
Si tu t'en souviens. Ça, faut pas dire.
Enfin, quand même.
Attends, si, c'est l'histoire où j'étais dans une autre équipe, où j'avais pas assez de licence.
Non, c'est pas ça du tout. C'est une histoire de papier d'identité.
Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, moi, je venais au match de mon frère qui jouait à l'époque en Minim France, donc à USA. Et donc, je jouais de côté. Et à ce moment-là, l'électricité Strasbourg, il manquait un joueur pour jouer, justement, je ne sais plus si c'était en mini poussin. Et moi, j'étais à ce moment-là baby. Et du coup, le coach, il me dit, ben, viens pour compléter l'équipe. On aimerait bien que tu joues avec nous. Donc moi, super content, j'y vais et tout ça. Et je dis à ma maman, vas-y, ramène-moi des baskets, vite, je vais jouer et tout. Donc j'avais mon match pour le week-end. Le problème, c'est que j'avais déjà un certain niveau. Donc ça s'est vite remarqué, en fait, pendant le match qu'on avait entre guillemets triché, ramené un joueur en plus. Et c'était justement à la SIG, à la Poste. Et donc j'avais fait un match assez remarqué. Et du coup, après, je crois que ça a valu au coach quelques matchs, quelques années de suspension à cause de ça, à cause de moi, entre guillemets. Donc voilà, moi j'étais content de jouer, mais bon, les adversaires n'étaient pas forcément contents.
Oui, parce qu'en fait, t'as dégommé les grands.
Ouais,
le
c'est
tout
ça,
petit qui a dégommé des grands, d'une certaine façon. Voilà. Et en plus, du coup, on en apprend encore plus que ce que l'on savait. Donc c'est bien, on apprend toutes les suites, entre guillemets, judiciaires. J'espère que cet entraîneur, tu vas lui offrir un maillot dédicacé ou quelque chose quand même, quelques années après.
À l'occasion. Hein,
ça peut le faire, effectivement. Le basket, c'était vraiment ta passion depuis tout petit ?
Ah oui, ouais, je suis tombé, comme dit, je suis tombé amoureux tout petit, puis... J'ai vite eu l'esprit de compétition dû à ma famille. Dans la chambre, on faisait tout le temps un contre un avec mon frère. Ça se finissait souvent mal.
L'un contre un, c'est quoi ? C'est avec les panneaux qu'on colle au mur, les mini-balles qui ont la tête de balle de tennis.
C'est exactement ça. On a encore des vidéos, je crois, assez marrantes. Et je suis tombé amoureux du basket. Je regardais tout le temps du basket. Donc, c'était un peu une suite logique que je continue à jouer au basket, quoi.
Et tu as fait des infidélités, entre guillemets, au basket. Tu as essayé d'autres sports pour voir s'il y avait d'autres sports qui pouvaient te plaire, ou ça a toujours été vraiment le basket, le basket, le basket.
Au tout début, ouais, j'ai commencé par le foot en même temps. Et d'ailleurs, c'est un peu un des regrets de mon papa, qui est en train de m'écouter d'ailleurs, parce que j'étais assez fort au foot. Et du coup, il voulait que je continue, mais je trouvais tout le temps des excuses. Ouais, il fait trop froid, il pleut, il fait trop chaud. Du coup, ma maman, un beau jour, elle m'a dit « Bon, si t'aimes pas vraiment le foot, ben t'arrêtes, quoi. »
En gros, t'aimes pas les sports d'extérieur.
Ça, c'était à l'époque. Maintenant, j'aime bien encore de temps en temps faire du foot. Dès que j'ai le temps, j'aime bien faire du foot. Et du coup, j'ai arrêté et j'ai pris le basket comme option numéro une, quoi.
Quand tu dis « je fais du foot quand j'ai le temps », tu as le droit, parce qu'on sait que les sportifs de haut niveau, il y a parfois des exclusions au niveau des sports.
Ah, c'est vrai que, par exemple, des sports comme le ski, les sports un peu dits dangereux, on n'a pas le droit. Mais après, le foot, quand je dis « je fais du foot », c'est je ne vais pas faire un five où on va me tacler dessus, mais c'est plus faire des buts à but ou des trucs comme ça, des petites brésiliennes ou des trucs un peu sympas, quoi.
Le basket, tu l'as continué à Guess-Paul-Sem, c'est ça, d'abord ?
Ouais, j'ai fait Baby, Mini Poussin, Poussin, jusqu'à Benjamin. J'étais à Guess-Paul-Sem avant justement d'aller à la SIG.
Donc un vrai produit de la SIG d'une certaine façon.
Ouais, c'est ça.
Ensuite, ça a été l'INSEP, passage obligé d'une certaine façon quand on veut devenir professionnel.
Ouais, alors au début, je n'étais pas forcément pour aller à l'INSEP. Je me sentais bien chez moi. Et après réflexion avec mes parents, l'entourage, ben, j'ai décidé de partir à l'INSEP. C'était avec un an d'avance et je suis reparti aussi avec un an en avance, pour retourner encore à la SIG au Percaille.
Voilà, rentrer à la maison. Alors l'INSEP, on va en parler un tout petit peu parce qu'on entend souvent parler de ces sportifs passés par l'INSEP. C'est quoi au quotidien l'INSEP ? C'est du sport, ce sont aussi des études me semble-t-il.
Ouais. C'est ça. Alors en fait, ta journée est combinée entre guillemets entre les cours et le basket. Donc c'est un peu compliqué au début parce que c'est vraiment un rythme de vie que t'as pas l'habitude. Quand t'as 14 ans, moi j'avais 14 ans, je suis parti à Paris sans tes parents.
C'est de l'internat en plus.
Ouais, c'est de l'internat. Par contre, t'as tout sur place, donc ce qui permet de gagner beaucoup de temps. Donc t'as le basket, la salle de basket à côté, t'as l'école qui est à côté, t'as la cantine qui est à côté, t'as les dortoirs qui sont à côté. Donc ça, vraiment, c'est bien. Et après, ce qui est un peu dur, c'est les horaires. Tu dois encore bosser les cours jusqu'à 21h, tu finis l'entraînement à 8h le soir. Donc t'as jamais vraiment le temps de te reposer. Mais par contre, je pense que mentalement, ça m'a vraiment fait grandir. Et pour ça, je suis content d'avoir passé par l'INSEP et aussi d'avoir côtoyé du coup d'autres athlètes de d'autres disciplines, ça c'est vraiment sympa.
Ouais, vous ne restiez pas juste entre basketteurs.
Non, rien que quand tu fais les cours en fait, moi j'avais des nageurs, des athlètes, des pongistes, donc ça c'est vraiment cool en fait de pouvoir côtoyer d'autres sportifs. Et ce qui est drôle en fait, c'est de les revoir après. Quand toi par exemple t'es professionnel, eux ils font un bon classement par exemple au tennis, tu vas à Paris, tu vas les revoir, donc ça c'est vraiment cool.
Est-ce que vous faisiez des petits challenges ? Genre, tu jouais contre un pongiste, lui essayait de te faire un concours de lancer franc, des choses comme ça.
Ouais, le problème, c'est que la plupart des pongistes ou des tennismans, ils avaient vachement du mal à jouer au basket. Alors qu'on peut toujours un petit peu jouer au ping-pong ou comme ça, mais c'est vrai que vu qu'ils avaient un niveau assez élevé, nous aussi, c'était toujours un peu à la rigolade, quoi. Niveau défi, il n'y avait pas grand-chose à faire.
Bon, t'étais peut-être pas dans la bonne génération, parce qu'il y a des vidéos qui circulent d'un Teddy Riner qui shoot des lancers francs avec une... C'est peut-être même au-delà de la ligne de lancers francs, avec une belle réussite. Et lui, à mon avis, sous le panier, pour lui prendre un rebond, faut quand même y aller.
C'est clair que moi, je m'y frotterai pas.
Alors, justement, tiens, tu te frottes quand même à des joueurs costauds, t'as pas peur sur le terrain. Tu fais partie de ces joueurs qui n'ont pas peur d'aller au contact.
Ouais, c'est... Je pense qu'il faut faire preuve de caractère quand on est joueur et encore plus quand on est petit par la taille. Donc c'est vrai que, comme je l'ai dit, depuis petit, je joue face à des joueurs plus grands que moi, plus costauds. Donc c'est devenu un peu, entre guillemets, une habitude de se frotter aux grands. Donc ouais, j'ai pas peur et je pense que c'est ça qui fait une de mes forces aussi.
Et parmi tes habitudes, il y a aussi de te motiver en musique avant le match. Voici le son qui motive l'ami Ludovic Beurst avant d'entrer sur le terrain. Everything litty, I love when it's hot.
trend of the city, I broke all the notch. Got some more millions that keep me a knot. I created history, it made me a lot. He tried to diss me and any don't false. We call them Chaucer cause they gonna chop. Took her out of filers cause her pussy pop. I run it like Nike, we got it on lock. Cartier, I'm the boss man in a suit with no tie. I can't be sober, I gotta stay high. Put me some syrup in the can and it's dry. Riding a special like Bunny and Clyde. Don't worry baby, I keep me some fire.
Puisque tu abordes ta taille, est-ce que ça a pu être dans ta jeunesse pour toi une forme de handicap ? Est-ce que des gens t'ont dit « de toute façon, t'es trop petit, tu n'y arriveras pas » ?
Ouais, bah forcément, il y a toujours des gens réticents. Sans quoi qu'on fasse, il y aura toujours des critiques et tout. Si tu commences à écouter les critiques tout le temps, tu vas jamais y arriver. Donc après, tu la transformes en force en fait. Tes défauts, tu les transformes en force et c'est ce que j'ai essayé de faire
une sorte de sublimation.
Ouais, en fait, tu utilises ta taille par la vitesse, par d'autres choses que juste tirer au-dessus du gars.
Oui. Et donc, puis ce fameux centre de gravité bas dont on parle au basket, ouais, qui est assez terrible quand on est défenseur.
Ouais, bah, je pense que quand t'es grand meneur et que tu t'attaques contre un joueur qui est plus petit, c'est forcément plus embêtant que de jouer un joueur contre... qui a le même centre de gravité que toi. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est devenu un peu une qualité.
Tu quittes l'INSEP pour revenir à la SIG en espoir. Ouais. Et tu passes des espoirs aux professionnels. Alors, il y a beaucoup d'espoir dans tous les clubs français. Très peu arrivent à passer professionnel. Ouais. À la SIG Strasbourg, comme ailleurs d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait qu'on parvient à franchir ce cap qui semble une montagne énorme ?
C'est vrai que le niveau entre espoir et professionnel est assez grandissant. En plus, d'année en année, c'est encore pire, j'ai l'impression. Mais après, il y a plusieurs aspects. Je pense qu'il y a une partie chance, dans le sens où tu peux avoir une occasion quand un joueur se blesse, par exemple. Moi, je me rappelle qu'il y avait un joueur qui s'était blessé, donc j'avais eu l'occasion de rentrer.
C'était
il y avait Mike Dixon Jr.
Mike Dixon Jr., il y a quelques années.
Qui était blessé un petit peu. Et du coup, j'ai eu l'occasion de m'entraîner plus avec eux. Et en fait, c'est à l'entraînement que tu commences un peu à faire tes preuves, à montrer que tu peux jouer avec eux, que tu as les possibilités de les aider. Et du coup, après, tu as la confiance du coach qui commence à grandir. Et après, il faut saisir la chance dès que tu rentres sur le terrain en match. Et ça, c'est le plus dur parce que les premiers matchs, tu es vachement stressé. Tu n'as pas l'habitude de jouer... dans un environnement où il y a beaucoup de monde, autant de monde qui te regarde, tu n'as pas l'habitude d'avoir une vitesse de jeu aussi élevée. Donc, faut s'habituer à ces choses-là. Et si tu réussis tes premières entrées, après, je pense que c'est déjà un petit cap de passer. Après, faut confirmer. Et donc voilà, je pense qu'il y a tous ces aspects qui entrent en jeu. Et donc, pour moi, ça a marché. Donc, tant mieux.
Et on espère que ça marche de mieux en mieux. Alors, ça va m'amener un petit questionnaire, les premières fois de Ludo Beust.
Voilà.
Tu es prêt ?
Ouais, je suis prêt.
Est-ce que tu te souviens de ton tout premier match de basket ?
Je crois que c'était à Hohenheim, mon premier match de basket. C'était ça.
Est-ce que tu te souviens de ton tout premier match à la SIG en tant que spectateur ?
Spectateur ? Non. J'ai le souvenir de plusieurs matchs quand j'étais petit, mais le premier vraiment...
Non, et t'as un premier souvenir qui te revient, ce serait quoi ?
Moi j'ai un souvenir, c'était Keith Jennings à l'époque, qui avait envoyé un alley-oop à Thierry Rupert et qu'il avait marqué, je crois, à l'envers comme ça.
Et
ça c'était assez loin, la passe, et donc ça m'avait vraiment marqué. Donc si je devais donner une action, ouais, c'était celle-là.
Ton premier entraînement avec les pros ?
J'aurais pas à te dire la date, mais ouais, je me rappelle que j'avais quitté les cours avant pour venir justement avec les pros. Donc ouais, je me rappelle.
Et l'accueil, ça a été comment, les pros, quand ils voient arriver un gamin ?
Bah franchement, ils étaient cool. Ils étaient assez cool. Ils essayent de t'intégrer. Puis j'avais Franck, que je connaissais bien, qui me donnait des conseils.
Franck Nilikina.
Ouais, c'est ça. Donc c'était assez cool. Même
bizutage ?
Non.
Pas bizutage. Ta première entrée en jeu avec les pros ?
Ouais, il me semble que c'était contre Cholet. Je me rappelle de ce match.
Ton premier panier, tes premiers points, peut-être c'était sur lancer franc.
D'ailleurs, oui, c'était un lancer. Après, contre qui, je sais plus. Mais ouais, je me rappelle. Ouais.
Et puis moi, je me rappelle surtout, je me rappelle pas forcément du match en soi, mais je me rappelle qu'après, t'étais passé me voir pour chanter
La Marseillaise.
La Marseillaise, voilà. T'étais le premier d'ailleurs à ne pas chanter La Souris Verte, que tu saches.
Ah,
c'est toi qui as lancé la mode. Avant toi, c'était La Souris Verte. Tu es arrivé avec La Marseillaise. Et puis, il y en a eu jusqu'à Jason récemment qui a chanté la saison dernière du Aya Nakamura.
C'est un peu plus original. Hein. Moi, c'est vrai que j'étais pas très.
Non, mais c'est patriote, c'est très bien.
Ouais, je me suis dit, on représente la. La patrie.
Exactement. Et ta première qualité, ta qualité première plutôt sur le terrain.
Qualité première, je dirais ma vitesse. Je dirais ça.
Et une agressivité défensive aussi, on peut le mettre en deuxième qualité peut-être.
Ouais, on peut.
Ouais, on peut. Bon.
T'as le droit. Je t'autorise.
J'ai le droit. Et puisqu'on parle de première, Ludovic... Nous allons entrer tous les deux dans la DeLorean de la SIG Strasbourg. Okay. Voilà, le convecteur espace-temps est derrière toi. Pas touche, hein. Attention, s'il te plaît. Non, parce que c'est... Voilà, ça coûte cher. Ça coûte cher. On va remonter très loin. Donc, j'espère que Jean-Noël, qui est notre technicien en chef, a bien mis de l'essence et des détritus, parce que c'est une voiture écologique, la DeLorean, désormais. Pour revenir, nous allons partir, Ludovic, si tu le veux bien, 100 ans en arrière.
100 ans, waouh.
Ou 90 ans, pardon, 90 ans. On va 90 ans, 100 ans. On n'a pas l'essence pour. Alors, nous partons en 1929, printemps 1929. Bon, on s'est planté juste d'une heure par rapport à notre voyage, mais bon, sur 90 ans, c'est pas trop mal. On arrive à la fin d'un match. À la fin d'un match, alors il faut savoir que la SIG Strasbourg, la sportive Ilkirch Grafenstaden plutôt a été créé quelques mois auparavant à Ilkirch en 1928 et là en 1929 il y a quelques semaines la création de la section basket. Bien loin des déplacements que toi tu peux connaître en BCL, que ce soit en Lituanie, dans les ex-républiques russes, en Espagne, en Grèce et autres, là le premier déplacement de la SIG c'est un match amateur qui vient juste de se disputer à l'instant du côté de Cronenbourg. Donc, ça fait pas très très loin, effectivement, Ilkirch-Cronenbourg. Le tout premier 5 majeur de la SIG est composé de Jean Ledoux, Jacques Ekman, son frère, Robert Ekman, Théo Kleindienst et Antoine Schmidt-Heusler. Ils ont commencé le basket il y a quelques temps seulement. On ne sait pas s'ils ont eu trop d'entraînement ensemble. Et l'histoire raconte qu'ils ont joué en extérieur. C'était le cas à l'époque. Elle raconte surtout, et heureusement, que les feuilles de stats n'existaient pas à l'époque. Puisqu'on ne saura jamais qui est le seul et unique marqueur de la SIG pour ce match.
Ah ouais.
L'auteur des deux seuls points de la SIG, puisque le tout premier match de la SIG, au printemps 1929, a été perdu par la SIG Ilkirch à l'époque contre l'Étoile Cronenbourg, 93-2.
Ah ouais, chaud.
Chaud, très très chaud, effectivement. On va vite revenir en 2019. Et toi, Ludovic, des matchs comme ça, t'as des souvenirs de gros, gros scores, notamment quand tu étais en équipe de jeunes?
Ouais, je me rappelle quand j'étais justement en poussin, on était un petit peu des raclés, donc il y avait souvent des 102 à 28. Bon, c'était pas deux points quand même en face, mais ouais, il y avait certains gros scores.
Ouais. Alors, question de philosophie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent respecter l'adversaire, c'est voir quand il est plus faible, ne pas y aller trop. Ouais. D'autres disent au contraire, ben, respecter l'adversaire, c'est jouer à notre niveau et tant pis si le score est gros. T'es plutôt de quel côté, toi?
Mais je suis un peu dans le juste milieu. Je veux dire, quand on est jeune et que tu vois en poussin qu'une équipe mène 90 à 10, ça sert à rien de faire une zone presse qui va les mettre encore plus bas que terre. Donc, je pense qu'à ce moment-là, tu peux un peu relâcher. Après, quand tu montes en niveau, si tu es à partir de professionnel, si voilà, tu commences à mettre un petit écart de 30 points, bah, tu ne vas pas non plus te relâcher et laisser les adversaires marquer. Donc moi, c'est comme ça que je le vois.
Il y a eu le cas en début de saison pour la SIG Strasbourg, d'ailleurs, avec ce déplacement au Portel. Vous gagnez de 31 points, je crois, 29 ou 31 points d'écart. C'est ça. Voilà, là, il n'y a pas d'état d'âme. De toute façon, c'est professionnel contre professionnel.
Ouais, non, il n'y a pas de... Tu es là pour jouer, je veux dire. Tu vois, c'est notre métier, donc tu ne vas pas te mettre en vacances pendant un match parce que tu gagnes de beaucoup. Donc, Non, faut jouer.
Et Ludo, en plus, t'aimes bien la musique, donc on va écouter les sons de Ludovic Beyerst. This not the molly, this the boat. Ain't no coming back from here. Live a life a lot familiar. Let's go. Qué calor, qué calor. En la discoteca, qué calor. Llega para la muñeca, por favor. Qué calor, en la discoteca, qué calor. Llega para la muñeca, por favor. C'est notre métier. Ça, c'est quelque chose qui te fait bizarre de dire mon métier, c'est de jouer au basket.
Ouais, c'est vrai que je le dis rarement parce que on a la chance de vraiment faire notre passion, même si il y a des à côté aussi qui forcément sont un peu plus chiants dans la vie de tous les jours et tout. Mais je veux dire, c'est vraiment un plaisir d'aller à la salle. Tu dis, je joue avec une balle, je dois juste mettre le ballon dans le panier et défendre, courir. Donc c'est vraiment un bonheur de dire ça, que c'est ton métier, quoi.
Ça me fait penser à Jean-Pierre Papin, ancien grand footballeur et également entraîneur du Racing, qui disait à l'époque, moi ce que je demande aux joueurs, c'est d'arriver tous les matins avec le sourire, ouais, parce qu'ils sont bien payés pour juste jouer au foot. Mmh.
C'est vrai que de ce côté-là, les joueurs de foot encore plus, ils ont pas à se plaindre, nous non plus. Et c'est vrai qu'il y a des métiers dans la vie qui sont beaucoup plus durs. Donc c'est vrai qu'il y en a qui prennent un peu l'habitude de se plaindre, mais c'est pas très bien. Et comme disait Giroud, j'avais vu justement une émission, l'équipe, il a horreur d'entendre dire qu'ils doivent se remettre au travail après une défaite, parce qu'il appelle ça pas, il appelle pas ça un travail, en fait. C'est vrai que d'un côté, il a pas tort. C'est une passion avant tout, et si c'est pas ta passion, ben ça devient pas ton métier, en fait.
Est-ce que tu penses à cette chance que tu as lorsque tu croises des supporters? Pour toi, ça fait vraiment partie d'une ambiance générale, si même après une défaite, il y a un petit garçon, une petite fille, peut-être un futur Ludovic Beyerst, ouais, qui vient, qui te dit est-ce que je peux avoir une photo avec mon monsieur? Est-ce que je peux, ouais, avoir un autographe?
C'est vrai que des fois, c'est dur quand tu sors vraiment d'un mauvais match, personnellement et collectivement, mais après, ça te ramène vite à la réalité quand tu vois des jeunes avec un petit sourire comme ça qui te demandent une photo, quoi. On sait tous que la plupart, on était à leur place avant. Moi encore plus, j'étais au Rhénus à regarder les matchs. Donc c'est vrai que ça fait un petit truc au cœur à chaque fois, et tu t'arrêtes forcément pour leur donner un petit autographe ou une photo. C'est des souvenirs peut-être qu'ils garderont toujours, et toi, ça te coûte 30 secondes de t'arrêter pour eux.
Les autographes que tu as pu demander, les photos, il y avait qui comme joueur?
Moi, j'étais fan à l'époque de Ricardo Greer et Jeff Greer. Bon, Jeff Greer, c'était plus pour sa coupe de cheveux. Il avait les tresses. Et du coup,
il était swag, l'ami Jeff.
Il était vraiment swag. Et j'avais même mis le bandana comme lui. Et j'ai fait les tresses comme lui. J'étais vraiment fan, quoi.
Ouais, ça, le bandana, il y a d'ailleurs un souvenir marquant. Hein.
Ouais, c'est quand j'ai ramené le trophée de champion de France. J'avais encore le bandana, justement. Mais bon, je crois qu'il n'a pas capté que j'ai fait ça pour lui. Donc,
voilà, bah, écoute, on le lui dira, on lui enverra le podcast à Jeff. Je pense que ça lui fera très plaisir, un garçon qui a gardé évidemment de très grands souvenirs à la SIG Strasbourg. On va parler un petit peu du bilan actuel de la SIG Strasbourg, début de saison difficile. Mmh. Les témoignages concordent, très bonne entente générale à l'entraînement, des entraînements de qualité, mais en match, dès qu'il y a un petit caillou, petit grain de sable, tout part à volo.
Ouais, c'est ça, c'est vrai qu'on n'a rien à dire sur l'ambiance du groupe. On vit très bien ensemble, mais bon, après, forcément, quand t'as des défaites, c'est un peu plus difficile après, quoi. Donc là, on est un peu sur un bilan mitigé, c'est pas le bilan qu'on avait pour objectif en début de saison. Après, on a commencé par des matchs très difficiles. Comme plusieurs personnes l'ont dit, il n'y avait pas forcément le coach en préparation. Donc c'est encore différent quand il revient plus tard. Et je pense que tout ça combiné, ben ça donne un petit peu un début compliqué pour nous.
Et puis on voit que parmi les équipes qui vous ont battu, il y a les deux co-leaders invaincus, ouais, de la Jeep Elite. L'Asvel qu'on attendait, Boulogne-Levallois qu'on attendait aussi ou pas trop?
Bon, on les attendait parce qu'on savait qu'ils avaient monté une grosse équipe, qu'ils avaient un nouveau projet. Mais je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui les attendait à ce niveau-là, à commencer par 5 matchs et invaincus. Donc voilà, après, ils ont une très bonne équipe, il n'y a rien à dire, ils sont bien coachés. Donc il faut leur donner du crédit aussi.
Et parmi les actuels compagnons d'infortune d'Assig, on peut citer l'Élan Béarnais que vous avez battu il y a quelques temps, le CSP Limoges, le Mans, il y a Monaco qui ne va pas beaucoup, beaucoup mieux. Ça fait quand même une sorte de carte un peu redessinée en ce début de saison. Tu penses qu'il y a des choses qui vont se tasser, qui vont changer justement, que l'Assig Strasbourg, à l'image d'autres équipes, va monter en puissance?
Ah, je pense que non, on ne peut pas forcément faire pire, on n'a pas gagné beaucoup de matchs, donc forcément on va prendre des matchs et ça va aller un petit peu mieux. Après, il faut savoir que vraiment il y a 12-13 équipes cette année qui sont vraiment fortes. Chaque année c'est comme ça, mais j'ai l'impression que cette année il y a encore plus d'équipes, on va dire, qui a élevé son niveau, qui a des meilleurs joueurs. Donc ça va vraiment être une année compliquée pour plein d'équipes, et donc c'est pour ça qu'il est important de prendre un maximum de matchs là sur les prochains matchs qui arrivent pour pouvoir remonter au classement et par la suite faire les playoffs.
Au moment où on enregistre ce podcast, tu es légèrement blessé, touché à la cheville, donc pas de prise de risque inutile. Adducteur, pardon, ouais. Excuse-moi Ludo. les adducteurs, pas de prise de risque inutile. Ça se vit comment de voir qu'on ne peut pas aider les copains, justement, un soir de match, quand on est sur le banc, se dire, si j'avais été là, j'aurais pu reposer un coéquipier, j'aurais pu apporter telle chose?
C'est forcément un peu frustrant, un peu difficile, surtout quand t'es blessé, t'es un peu à l'écart du groupe, tu fais des soins tout seul, tu regardes les entraînements tout seul, donc c'est un peu compliqué. Et en plus de ça, ouais, tu t'imagines toujours que tu peux aider tes coéquipiers. J'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Mais bon, après, ça fait partie aussi du job. Il ne faut pas non plus que le moral soit à zéro. Il faut être là pour encourager les coéquipiers. Si tu vois des trucs, leur dire. Donc voilà, il ne faut pas non plus faire la gueule et rester de ton côté.
Ça te donne envie de devenir coach, tout ça? Cette observation?
Ouais, franchement, moi, je suis quelqu'un qui aime bien regarder tous les matchs, qui aime bien m'intéresser aux joueurs. Donc ouais, j'ai déjà coaché un petit peu l'été. Quand je fais des stages, je coache un petit peu. Et franchement, c'est quelque chose que j'aime bien. Je pense surtout aider les jeunes individuellement à progresser. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et j'adore aussi l'aspect tactique du basket. Quand tu regardes des matchs
d'Euroleague... Ça tombe bien pour un meneur, ceci dit.
Ouais, quand t'es meneur, t'es un peu obligé de connaître un peu mieux le jeu, de diriger l'équipe. Donc ça va un petit peu ensemble. Mais c'est vrai, quoi, que pourquoi pas, j'aimerais bien faire coach plus tard.
Plus tard, on te laisse encore le temps d'avoir une longue carrière. Hein. Ouais. Rappelons que tu es encore tout jeune. Et alors justement, je le disais en introduction, plus jeune joueur de l'effectif pro de l'Assig Strasbourg et pourtant le plus ancien du groupe, est-ce que ça te donne une place particulière dans le vestiaire? Est-ce que voilà, tu es un joueur qui peut avoir une voix qui compte dans le vestiaire?
Oui et non, parce que je veux dire... J'ai quand même que 20 ans. Après, les joueurs, ils savent quand même, parce que j'ai rencontré par exemple Jerry Grant ou Gabe York. Gabe York il y a 2-3 ans, Jerry l'année dernière, donc ils savent que j'ai déjà vécu la campagne européenne, que j'étais déjà dans l'équipe à jouer, pas juste être dans l'équipe à regarder. Donc forcément j'ai un peu plus de crédit que si j'étais un jeune joueur de 19-20 ans qui n'avait pas joué un match. Après je ne suis pas là dans le vestiaire pour dire à qui que ce soit de donner des ordres ou quoi. Il y a forcément des aspects tactiques où tu parles avec tes coéquipiers pour savoir dans quelle position ils préfèrent avoir la balle ou quoi. Mais ça, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Et ce n'est pas parce que j'ai eu plusieurs années déjà en tant que pro que je dois plus l'ouvrir que d'autres. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est bien d'avoir une certaine expérience déjà à mon âge. Et après, ouais, je pense qu'il y a quelques joueurs qui peuvent m'écouter. Mais comme dit, c'est dans une relation saine entre chacun.
Et il y a une fierté particulière du maillot pour toi qui a été formé en grande partie à l'Assig Strasbourg et en Alsace.
Oui, c'est quand même quelque chose de particulier de porter le maillot de Strasbourg quand tu as vécu à Strasbourg, quand tu étais petit fan de Strasbourg. Donc, en plus, la plupart des supporters le savent, donc ils te poussent encore plus. Donc forcément, il y a une certaine identité du club que peut-être d'autres joueurs ont un peu moins. Donc forcément, c'est vraiment une fierté pour moi.
Ludovic Béhan, joueur de la SIG Strasbourg, joueur des équipes de France, moins de 16 ans, moins de 18 ans, moins de 20 ans, avec une belle campagne l'été dernier, où tu as été particulièrement remarqué. C'est une fierté supplémentaire, j'imagine, de porter ce maillot bleu et blanc.
Ouais, carrément. C'est un peu le... On va dire une petite récompense de la saison que tu fais à chaque fois, de revenir l'été avec l'équipe de France. Et puis surtout, tu te frottes aux autres joueurs de ta catégorie internationaux. Donc c'est pas rien de jouer contre les meilleurs joueurs d'Europe ou du monde. Donc c'est vrai que maintenant, ça fait, comme je le disais, ça fait depuis que j'ai l'âge de 13-14 ans que je fais les équipes de France. Et c'est vraiment quelque chose... Après coup, des fois, c'est un peu difficile parce que t'enchaînes avec une saison.
Eh oui, il n'y a pas de vacances.
Voilà, ça, c'est un peu difficile physiquement, mentalement. Au début, t'as toujours un petit creux, mais après, une fois que t'as fini, tu te rends compte quand même, ah ouais, on a fait ça et tout, c'est quand même quelque chose de grand. Et puis surtout, t'as une grande communauté de personnes qui te regardent, t'as ta famille aussi qui est derrière. Et donc, c'est, franchement, c'est des très belles expériences.
La question qui tue.
Ah ah. La question qui tue est arrivée. Alors, la question qui tue, on a essayé de trouver une réponse auprès de tes proches, notamment de ta compagne. Comment s'appelle-t-elle ?
Valéria.
Voilà, alors Valéria qu'on n'a pas réussi à contacter. Du coup, la question qui tue, on va te la poser.
D'accord.
Les yeux dans les yeux, Ludovic Beyerst, la France a le droit de le savoir.
J'ai peur, hein. J'ai peur. Ouais.
Dormez-vous toujours avec votre ballon de basket ?
Non. Non, c'est plus le cas. Quand j'étais petit, je faisais ça. J'avais tout le temps ma balle de basket avec moi. Je dormais avec ma balle de basket et tout. Mais après, arrivé à un certain âge, j'ai un peu arrêté de
l'avoir tout le temps avec moi. C'était ton doudou.
Ouais, c'est ça. Il y a des petits, ils avaient leur doudou. Moi, j'avais mon doudou à moi. C'était ma balle de basket. Et voilà.
Et alors, est-ce que comme Tom Hanks, dans Seul au Monde, qui avait surnommé, prénommé plutôt son ballon de volleyball Wilson, tu avais donné un petit nom à ta balle ou...
Non, même pas.
Quand même pas. Alors, ce que j'ai appris aussi, c'est que tu as une passion pour le tuning, mais le tuning des chaussures.
La custom des
chaussures. Là, explique-nous d'où ça vient.
C'est venu un peu par hasard. Je regardais sur un site pour m'acheter des baskets et j'ai vu une paire assez originale. Et en fait, il s'avérait qu'elle était personnalisée par quelqu'un. Du coup, je me suis renseigné un petit peu. J'ai commencé à faire une paire à moi. Et je l'ai posté sur les réseaux, donc aujourd'hui les réseaux ça va super vite. Et je l'ai posté comme quoi c'était la mienne, quoi. Et il y a plein de personnes qui commencent à me demander, mais à combien tu la vends et tout, est-ce que je peux avoir la même et tout. Je fais, oh, il y a peut-être une idée de business à faire ici.
Oui.
Et du coup, après, j'ai commencé à personnaliser des chaussures pour des potes. Après, ça a fait que ça grandir. Du coup, j'ai fait encore une page à côté. Je fais des modèles un peu plus compliqués, de plus en plus compliqués, avec des dessins sur des baskets pour jouer au basket, des baskets des sneakers, tout simplement, de ville. Et donc maintenant, ça a pris une belle ampleur. Donc ouais, c'est un peu ma seconde passion après le basket.
Et donc c'est toi qui fais ces dessins, c'est ça ?
Ouais, c'est moi. C'est moi.
Joli talent de dessinateur.
C'est moi qui fais. Ouais, quand j'étais petit, j'aimais bien dessiner. Et du coup, c'est un peu revenu, mais sans que je le veuille vraiment, quoi. Et donc c'est vraiment quelque chose qui m'occupe après le basket. Des fois, quand tu sors d'un mauvais match, c'est bien d'avoir une deuxième passion où tu penses pas forcément au basket tout le temps. Et donc ça me permet de penser à autre chose et en même temps de faire quelque chose de différent avec un petit business à côté. Donc
ça veut dire que tu as monté une petite structure, c'est ça, ou c'est comme ça tranquille pour les potes?
Bah là, j'ai monté quand même un petit réseau, une petite structure. Là, j'ai une collaboration qui va arriver avec une marque de vêtements. Donc ça commence petit à petit à faire quelque chose de pas mal, quoi. Donc je suis assez content. Et bon, des fois, ma copine, elle râle parce que j'ai pas beaucoup le temps pour elle, mais bon.
Fais-lui une jolie paire de chaussures pour la Saint-Valentin.
Le truc qui est fou, c'est que j'en fais tellement pour les autres, en fait, j'en ai même pas une pour moi. Donc c'est assez drôle que j'ai pas le temps d'en faire pour moi. Mais...
Tu les customises comment ? Tu demandes d'abord à tes amis ou à tes clients ce qu'ils veulent, ou ils te disent, vas-y Ludo, on te laisse imaginer pour moi.
Alors avant, au tout début, c'est vraiment les personnes qui venaient vers moi, qui me disaient, ouais, je veux ça. Et donc j'ai commencé par ça. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que que c'était pas vraiment tout ce que j'aimais, tout ce que je kiffais de faire des dessins comme ils voulaient. Il y a des trucs que j'aimais pas forcément. Je me suis dit, fais d'abord ce qui te plaît. Et si vraiment tu prends du temps à le faire et que c'est un beau travail, à la fin, les gens, ils vont aussi aimer. Et du coup, maintenant, je suis un peu plus vers cette direction. Je fais d'abord ma paire. Et après, les gens, justement, ils me demandent une paire en plus à cette taille pour que je les fasse. Et comme dit là, par exemple, la marque, elle m'a demandé, elle m'a laissé libre le choix de faire ce que je voulais. Et apparemment, ça a pas mal de succès, donc je suis plutôt content.
Est-ce que je peux te lancer un pari ?
Dis-moi.
À ton retour de blessure sur le parquet avec une chaussure customisée, c'est jouable ?
Pas de souci. En fait, j'en ai une là que j'ai pas touchée encore. Elle est toute grise, parfaite.
Et il y a l'imagination qui travaille.
C'est ouais, ça. Franchement. Quand je commence une paire, de base, j'ai toujours une idée. Et après, au fur et à mesure, en fait, je me rends compte que je change des trucs. J'ai des idées qui me viennent encore. Donc, tu rajoutes des détails. Et à la fin, c'est que du peaufinage. Et des fois, ça prend un peu la tête parce que tu as toujours de nouvelles idées, mais tu ne peux pas tout faire. Et voilà. Mais ça, franchement, je kiffe.
Et il y a des moments où tu n'as pas envie. Tu es tellement content de la paire de chaussures que tu as customisée que tu n'as même pas envie de les rendre aux personnes.
Ça m'est arrivé, ouais, pour une des dernières que j'ai faites. Il y en a qui me l'a demandé, mais en fait, elle m'a pris tellement de temps et c'était tellement compliqué de faire ce que je voulais qu'en fait, je l'ai gardée tout simplement pour moi, la mettre de temps en temps et faire un peu sensation auprès de mes coéquipiers quand j'arrive dans le vestiaire avec la paire.
Tiens, je lance encore une autre idée comme ça. Au-delà du pari que je t'ai lancé, est-ce qu'on pourrait, là je regarde le service de communication à Cyril, ils me regardent avec des grands yeux sévères tous les deux, est-ce qu'on pourrait imaginer une paire de chaussures customisées par Ludo à offrir aux gens, aux auditeurs de ce podcast ?
Ça faut demander aux boss. Hein.
Ouais, les boss disent
oui.
Ah,
c'est bon.
Donc voilà, on va lancer. Qu'est-ce qu'on peut lancer ? Qu'est-ce qu'on peut leur demander pour désigner un gagnant ou une gagnante ? La pointure de Ludovic.
Ah, ça c'est pas mal.
Premier qui donne la pointure exacte des chaussures de Ludovic Beyerst sur Twitter avec le hashtag entre deux sur Twitter et vous donnez la taille exacte de la pointure de Ludovic Beyerst, eh bien Ludovic va vous customiser des chaussures à votre taille, hein, rassurez-vous. Voilà, quand même. Ludovic, on arrive tout doucement au terme de ce podcast. On va faire une petite séance de shoot. La petite séance de shoot, c'est simple. Question rapide, réponse rapide.
Ok. Hein,
voilà, à la fin de l'entraînement. Première question, ton basketteur préféré ?
Allez, Isaiah Thomas.
Ah, Isaiah Thomas. On m'a dit que quand tu étais jeune, c'était aussi Chuck Hedson, un peu plus proche de nous.
Ah, j'adorais Chuck Hedson.
Ton meilleur ami dans le basket ?
Je dirais Frank Ntilikina.
Ouais. On a vu des belles retrouvailles quand il est passé au Rhenus Sport il y a quelques semaines.
Ah ouais, ça fait toujours plaisir. Puis moi, ce qui me fait drôle, c'est quand je vois sa bannière en haut, du coup, des fois, c'est assez drôle.
Une bannière Ludo Beyerst à côté, ça serait pas mal.
Ça serait lourd.
Ton équipe de basket préférée hors la SIG Strasbourg ?
Hors la SIG, Real Madrid.
Real Madrid. En foot aussi ou juste en basket ?
Ah non, juste en basket. Au foot, c'est le RCS.
C'est le RCS.
Représente.
Ton geste préféré au basket ?
Mon geste préféré, c'est le step back shoot.
C'est-à-dire, explique pour ceux qui ne savent pas trop.
Quand tu dribbles, tu t'arrêtes net et tu fais un pas de recul pour tirer. Ça s'appelle le step back.
Le joueur le plus difficile que tu as eu à défendre ?
David Olsen.
Pourquoi ? Joueur de Dijon notamment.
Ouais, il est aussi petit, mais en fait, il est tellement imprévisible. Parce qu'il y a des fois, il s'arrête justement, il change de rythme. Et il peut shooter à tout moment, il peut faire les passes, en fait.
Un casseur de cheville.
Ouais, franchement, c'est très dur à défendre.
Ta plus grosse bêtise sur un terrain de basket ?
Plus grosse bêtise. Ma plus grosse bêtise.
Ça veut dire qu'il y en a eu beaucoup ou pas beaucoup ?
Okay. Non, j'ai pas vraiment de plus grosse bêtise. Ça doit être une faute antisportive et voilà, c'est pas quelque chose de
fou. Quelque chose de
j'ai pas marqué de panier contre mon camp. Et à mes souvenirs, j'ai pas marqué de panier contre mon camp. Donc je dirais ça, ouais.
Ton plus grand rêve ?
Plus grand rêve ? Devenir champion de l'Euroleague. C'est mon plus grand rêve.
Ouais. L'Euroleague, ça veut dire qu'il y a une carrière que tu espères. J'ai lu que tu disais dans une interview, je veux être un meneur dominant en JPL d'ici 3 ans.
Ouais, c'était ça, ouais. C'était ça mon objectif parce que je pense que tu dois y aller étape par étape. Et ouais, faut se fixer des objectifs à court, moyen et long terme. Et donc voilà, ça se fait étape par étape. Après, c'est pas évident, mais il faut se donner les moyens. Si t'as pas de rêve, ça sert à rien de travailler tous les jours.
Voilà. Y si nous escucha en el Real Madrid, en España, Ludovic souhaite jouer pour vous un jour.
Voilà, à la Madrid.
À la Madrid. Et merci beaucoup, Ludovic. À très bientôt.
J'ai une demande. J'aimerais passer un coucou à toute ma famille qui m'écoute. À mon papa, là, qui est sur un chantier à Lingolsheim. Donc, je lui fais un grand salut à lui et tous ses collègues. À ma copine justement qui vous a pas répondu, mais je suis sûr elle vous en veut pas. Donc un coucou à Valéria Merlino et ma maman qui a la boulangerie à Geispolsheim. Je fais un grand coucou et un petit bisou aussi.
Voilà, c'est très sympa. Merci Ludo, on se retrouvera très vite bien sûr pour l'épisode 4 d'Entre Deux. En attendant, Sigarmi, je te salue.
Salut.